Nous sommes tous des consommateurs, nous sommes tous des acteurs. L'UFC Que Choisir de l'Ain vous informe.
Chers auditeurs de Radio B, bonjour. Aujourd'hui, dans notre chronique de l'UFC Que Choisir, nous abordons un sujet qui concerne des millions de Français. Chaque année, les travaux, que ce soit pour rénover une salle de bain, refaire une toiture, installer des menuiseries, le devis est la première étape. Mais savez-vous vraiment le lire et connaissez-vous vos droits en cas de problème? Pour en parler, je reçois un conseiller en litige de l'UFC Que Choisir. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour chers auditeurs, bonjour Christian, merci de m'accueillir. Alors c'est effectivement un sujet essentiel, car nous recevons chaque semaine des consommateurs confrontés à des litiges qui auraient pu être évités avec un devis correctement rédigé et une meilleure connaissance de des garanties.
Oui, alors Jean-Marc, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas trop accabler le consommateur parce qu'un artisan compétent est souvent difficile à trouver. D'autre part, l'artisan, il fixe ses conditions, les délais. En tant que consommateur, on donne souvent priorité, souvent au moins 10 ans. Mais est-ce que c'est vraiment la bonne solution? Et est-ce qu'il ne faut pas prendre en compte les nuisances occasionnées par un chantier qui est mal réalisé?
Alors... le moins 10 ans, c'est souvent le moins cher, c'est le premier critère de choix. Mais le premier point important, c'est qu'un devis, c'est obligatoire, c'est gratuit. Et c'est surtout obligatoire dès que le montant des travaux dépasse 150 euros. Donc vous voyez que c'est vraiment une limite qui est vraiment basse. En dessous, il reste quand même fortement recommandé, même en dessous de 150 euros. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une fois signé, le devis se transforme en contrat. Il engage les deux parties. L'artisan doit réaliser exactement ce qui est décrit, et il vaut mieux que ce soit fait dans le détail, et le client doit payer le prix convenu à la date convenue. D'où l'importance de le lire attentivement avant de le signer.
Oui, ok Jean-Marc, mais justement, quelles sont les mentions qui doivent absolument figurer sur ce devis?
Alors, on va résumer ça simplement. Il y a une liste de mentions obligatoires. Et chacune est véritablement importante. Premièrement, l'identité complète de l'entreprise. S'il n'y a pas de nom, pas d'adresse, pas de dénomination sociale, pas de ce qu'on appelle un SIRN ou un SIRET, c'est quand l'entreprise est enregistrée directement et officiellement. Donc ce numéro, c'est fondamental. Ça vous permet de vérifier que l'entreprise existe légalement, qu'elle n'est pas en liquidation judiciaire. Donc une simple recherche sur un site comme société.com, infogreffe.fr ou papers.com, ça vous donne ces informations en quelques clics.
Alors Jean-Marc, arrive-t-il que des artisans ne soient pas habilités pour les travaux demandés?
Alors c'est un point crucial et je ne vais pas dire qu'il est souvent négligé, je pourrais même dire qu'il est la plupart du temps négligé. C'est qu'effectivement un artisan peut effectuer certains travaux et ils prennent des assurances conformément aux travaux qu'ils sont capables d'effectuer. Donc si un menuisier vous fait des travaux de plomberie, ben, il n'est pas assuré pour. Donc dans des travaux de construction ou de rénovation assez lourds, il y a l'assurance décennale qui permet effectivement d'avoir une garantie sur une dégradation des travaux qui auraient été faits antérieurement. Donc il faut aussi le numéro de police, le nom de l'assureur, la couverture géographique qui doit apparaître. Donc mon conseil, c'est qu'il ne faut pas se contenter juste de ces mentions, il faut demander une attestation d'assurance à jour et vérifier qu'elle couvre bien le type de travaux que vous faites réaliser. Donc attestation décennale pour de la maçonnerie, ça ne couvre pas des travaux d'électricité.
Alors effectivement, les assurances, c'est un point important, mais peux-tu préciser concernant la responsabilité civile, y a-t-il des points particuliers à préciser? Parce qu'on confond souvent tous les types de couvertures.
Bah, c'est surtout la description des travaux qui doit être la plus précise possible. Le type de matériaux avec la référence, même, c'est important. Je dirais que c'est souvent le cœur du litige dans la majorité des dossiers que nous traitons à l'UFC. Que choisir? Un devis donc, doit comporter, je veux dire, toutes ces mentions, préciser aussi les prestations. Qu'est-ce qu'il va faire avec ces matériaux? Donc, prenons un exemple concret pour que ça parle un peu plus. Si vous faites refaire votre salle de bain, bah, il ne suffit pas que sur le devis, ce soit écrit « Rénovation de salle de bain, forfait 8 000 euros ». Parce que là, bah, vous avez absolument zéro garantie. Comment décrire rénovation d'une salle de bain ? Bon courage. Donc le devis doit détailler la dépose de l'ancienne baignoire, la fourniture et la pose d'une douche à l'italienne, avec les dimensions, quel type de receveur, quel type de carrelage, avec la référence, ou au minimum les caractéristiques. Tout ça, ça doit être précisé. La création d'un nouveau point d'eau, le déplacement même du sèche-serviette, et ainsi de suite.
Oui, et pour les matériaux, faut-il aller jusqu'aux références exactes ?
Alors, idéalement, oui. Et moi, dans les devis que je fais personnellement, je l'exige. Parce que je veux avoir la nature, la marque et la qualité des matériaux. Vous pouvez choisir un carrelage spécifique dans un showroom. Donc, sa référence, elle doit figurer sur le devis. Parce que sinon, rien n'empêche l'artisan de poser un carrelage d'entrée de gamme à la place de celui que vous avez choisi. Si légalement ce n'est pas écrit, vous n'avez aucun recours.
Vraiment, Jean-Marc, existe-t-il des cas comme celui-là où un artisan ne met pas les bonnes références ? Je prends par exemple pour une pompe à chaleur, est-ce qu'il va mettre une machine inférieure ou est-ce que ça arrive dans votre pratique ?
Alors, ce qui peut arriver, c'est que la référence de la pompe à chaleur, peut-être pas, il va respecter le modèle qui avait été décrit au départ. Par contre, il y a toute la tuyauterie qui peut être autour, les travaux qui vont être nécessaires pour mettre en place cette tuyauterie. Donc, il faut bien faire attention que une installation, ça ne se limite pas parfois à un élément, mais à tous les éléments.
Alors, tu as parlé d'un point important avant l'émission, la question des signatures. Quand on est marié ou en couple, peux-tu nous expliquer ?
Alors ça, c'est une règle qui est souvent ignorée, c'est qu'à partir où les travaux sont conséquents, on doit avoir sur le devis les deux noms du couple mentionné et les deux signatures. C'est ce qu'on appelle des travaux conséquents, c'est si on fait changer une chaise d'eau, un seul des deux peut très bien être à même de signer un devis. Et en général, le devis n'est pas très cher. Mais si on s'engage, comme tu le disais, sur une pompe à chaleur, là, c'est quand même quelque chose qui va coûter entre 10 000 et 30 000 euros. Donc là, il faut impérativement les deux signatures. Donc ce qui se passe aussi, c'est que si c'est signé avec une seule personne et s'il y a un seul nom sur le devis, il y a l'article 215 du Code civil qui protège le logement familial et qui dit que si un seul des époux signe un devis de travaux important sans l'accord de l'autre, l'autre, le dernier, peut demander l'annulation du contrat.
Donc ok, et quelle autre mention faut-il vérifier ?
Alors, il faut vérifier effectivement tous les éléments, comme on l'a dit, les signatures, les dates, les assurances, la qualité de la société. Donc, il faut surtout bien parler des délais, les délais d'exécution, la date de début des travaux. Et c'est essentiel parce qu'en cas de retard et sans date contractuelle, vous ne pouvez pas invoquer un retard de début des travaux, un retard de livraison. Et ensuite, les prix doivent être détaillés ligne par ligne avec le prix unitaire, la quantité pour chaque poste, le coût de la main-d'œuvre, les frais éventuels, le total hors taxe, le montant de TVA, etc. Donc il faut être exigeant sur votre devis.
Et à propos de l'acompte, est-ce qu'il y a une règle ?
Alors sur l'acompte, il n'y a pas de règle précise. Donc la loi n'impose pas de plafond, mais la pratique veut qu'un acompte ne dépasse pas en général 30% du montant total. Donc soyez très vigilant face à un artisan qui vous demande 50, 60% ou même 80% avant de commencer. Ça, c'est souvent un signe d'alerte. Si l'acompte sert à couvrir l'achat des matériaux, d'accord, mais si ça sert à financer la trésorerie de l'entreprise, là, je ne vais pas vous dire de fuir, mais faites très attention.
Alors, pour les travaux, lorsque les travaux sont terminés, mais les problèmes apparaissent, c'est souvent le cas. On entend souvent parler de garantie décennale. Et est-ce que tu peux nous expliquer les différents types de garanties ?
Alors ça, c'est un point important parce qu'effectivement, qu'on a tendance à confondre, mais on n'a pas une parfaite connaissance de ces éléments. Donc il y a trois garanties. La première, c'est la garantie de parfait achèvement et qui dure pendant un an. Donc, à compter de la réception des travaux, à réception des travaux, on signe un bon de réception des travaux, comme quoi ils ont bien été faits, et c'est le moment à partir duquel vous acceptez l'ouvrage. Donc, pendant cette année, l'entrepreneur, il doit réparer tous les désordres éventuellement que vous pouvez signaler, mais ces désordres, il faut les mettre sur le bon de réception. Alors, si vous le faites après, ça peut encore fonctionner, il faut le faire rapidement, il faut les faire constater. Et peu importe la nature ou la gravité, une fissure dans un carrelage, une porte qui ferme mal, une peinture qui s'écaille, tout ça c'est couvert.
Et pour la mettre en œuvre plus précisément, comment doit-on opérer ?
Alors, on commence par contacter l'entrepreneur. S'il vient et s'il répare, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, on lui fait une lettre recommandée avec accusé de réception. On décrit précisément les problèmes constatés. On demande la réparation dans un délai raisonnable. Et si l'artisan ne réagit pas, vous pouvez le mettre en demeure. Après, vous pouvez venir nous voir. On s'occupe de ce genre de médiation entre les parties, entre un consommateur et un artisan. Après, c'est ce qu'on n'espère jamais, mais l'artisan ne veut rien entendre, eh bien, ça peut aller plus loin, ça peut aller devant un tribunal.
Et concernant la garantie biennale, elle couvre quoi exactement ?
Alors, c'est souvent ce qu'on ne connaît pas. Après la garantie de parfait achèvement, on a la garantie biennale. Donc qu'est-ce que ça couvre ? Ça couvre le bon fonctionnement pendant 2 ans. Donc tous les éléments d'équipement qui sont dissociables de l'ouvrage, c'est-à-dire des éléments qu'on peut retirer ou remplacer sans dégrader le bâti. Donc concrètement, prendre un exemple, des radiateurs, des volets roulants, des ballons d'eau chaude, de la robinetterie, des portes intérieures, des interphones, des motorisations de portail, la VMC. Tous ces équipements doivent fonctionner correctement pendant au moins 2 ans.
Tu peux nous donner des exemples de recours ?
Bien sûr. Récemment, on a eu le cas d'un adhérent qui avait fait installer un portail motorisé. Donc la motorisation a connu plusieurs pannes en moins de 2 ans. Donc l'installateur a pris en charge les 2 premières réparations, et donc il reconnaît implicitement le défaut du produit. Mais à la 3e panne, il a refusé d'intervenir. Donc nous lui avons rappelé ses obligations au titre de la garantie biennale et aussi le régime des vis cachées. Dans ce type de situation, le consommateur peut exiger la réparation ou même le remplacement de l'équipement défaillant.
Alors, il reste la garantie décennale, 10 ans. Est-ce que tu peux nous expliquer ?
Alors, la garantie décennale, c'est celle qui est la plus protectrice. Donc, elle dure 10 ans. Et ensuite, elle couvre les dommages qui compromettent la solidité d'un ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination. Alors, plus clairement dit, c'est des désordres qui affectent la structure du bâtiment ou qui empêchent de l'utiliser normalement. Fondation, charpente, toiture. Je connais un exemple de quelqu'un, par exemple, qui avait des fenêtres qui étaient mal posées. Donc, ça a provoqué des fuites qui sont des infiltrations dans les murs. Et donc, ces infiltrations ou le changement des fenêtres, ça peut être pris en charge par l'assurance décennale.
Donc, c'est l'assurance de l'artisan ?
Oui, c'est l'artisan qui doit souscrire donc, cette assurance. Donc, c'est obligatoire. Donc, d'où l'intérêt de vérifier que son attestation d'assurance décennale existe bien avant les travaux. Parce qu'une fois qu'il a disparu, qu'il a fait faillite ou qu'il refuse d'intervenir, c'est le recours. Le recours, c'est directement avec l'assureur. Vous faites un petit dossier que l'assureur étudie. Et ensuite, normalement, s'il est bien assuré, ça doit bien se passer.
Alors, peux-tu nous donner un exemple de mise en œuvre pour que ça nous parle un peu plus ?
Donc, je citais l'exemple des menuiseries qui peuvent être en aluminium ou en bois qui sont mal posées, ce qui peut créer des fuites. Donc, pour développer un petit peu plus cet exemple, parce que je pense que ça parle à tout le monde. Donc dans ce cas-là, les défauts d'étanchéité, l'assurance mandate un expert qui vient voir qu'effectivement les fuites, les infiltrations existent bien, que c'est bien dû à une mauvaise pose des fenêtres. Donc à ce moment-là, l'assurance reconnaît le sinistre et s'engage à remettre en état et donc à rembourser ou à indemniser le consommateur.
Donc, c'est important, ça. On peut faire réévaluer un sinistre ?
Oui, dans le cas que je vous citais, ça veut dire que lors de la remise en état, il y a des nouvelles dégradations qui ont été découvertes, qu'on n'avait pas vues avant parce qu'elles étaient masquées. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'à ce moment-là, on a une extension du sinistre et qu'on peut demander une extension de la prise en charge. Donc, quand les travaux révèlent des désordres supplémentaires, parce qu'on ne peut pas casser les murs, on ne peut pas tout démonter forcément quand l'expert passe, pendant les travaux, on peut encore redécouvrir, des désordres supplémentaires et ils sont aussi couverts par l'assurance. Donc, c'est une garantie qui est très importante et, qui couvre bien la plupart des dommages.
Pour conclure, quel conseil peux-tu donner aux auditeurs qui s'apprêtent à faire des travaux ?
Alors, Les conseils, c'est un peu tout ce qu'on a dit, mais si on doit les résumer en quelques points essentiels. Donc, ne signez jamais un devis quand on vous presse de le signer. Prenez le temps de le lire, de le comparer aux autres, bien sûr, mais ne comparez pas que le prix. Comparez tout ce qu'on a dit sur la qualité, je veux dire, de l'entreprise, sur le fait qu'elle a bien une assurance, qu'elle a bien un sirène, etc., qu'elle a une bonne réputation aussi. Ensuite, un devis détaillé qui précise chaque poste. Donc, quand je parlais tout à l'heure de déposer une baignoire, de changer un robinet, etc., idéalement, quelqu'un qui vous fait un devis avec forfait pour tout, ça, c'est pas bon. Ne signez jamais quelque chose comme ça. Et ensuite, si vous êtes marié ou paxé, faites même en concubinage, faites bien figurer les deux noms et apposez les deux signatures sur le devis. C'est une protection pour vous, aussi une sécurité juridique pour tout le monde. Et dernier point, conservez les documents. Conservez les documents et en cas de litige, faites des écrits. Et s'il y a le moindre problème sur le bon de réception des travaux, marquez-le.
Et si un litige intervient malgré tout ?
Je dirais que ça n'arrive pas dans une majorité de cas, bien évidemment, mais ça arrive toujours. Donc, on commence par contacter l'artisan, on s'explique au téléphone, on voit son bon vouloir, sa bonne volonté. S'il intervient rapidement pour le régler, très bien. Si ce n'est pas le cas, on fait des écrits. Ça, c'est très important. Et les écrits, on peut même faire des courriers recommandés directement, on peut les faire gentiment, puis après, on fait des mises en demeure. Donc, on reste courtois. Et si ça ne suffit pas, vous pouvez venir nous voir, parce qu'on a un peu d'expérience sur le sujet, c'est-à-dire comment on négocie avec un artisan. Et ensuite, nous, on pourra vous orienter effectivement sur, soit une solution, ce qui arrive dans, 8 cas sur 10 à peu près, et ça se passe bien, ou si l'artisan se fait tirer l'oreille, à ce moment-là, on vous indique les procédures à suivre et on vous accompagne.
Merci beaucoup pour tous ces conseils précieux. Donc je vous rappelle notre message principal. Un devis bien lu et bien compris, c'est un litige évité. Prenez le temps de la réflexion avant de vous engager. C'était une chronique consommateur. Retrouvez l'UFC Que Choisir de l'Ain sur le site 1.ufcquechoisir.fr. À très bientôt.
Nous sommes tous des consommateurs, nous sommes tous des acteurs. L'UFC Que Choisir de l'Ain vous informe.